Merci pour l'accueil de mes amis. Et merci de cette invitation pour donner encore un cours. Je n'aime pas trop les définitions en français, mais en fait, la Torah que nous étudions est une Torah qui vient nous enseigner le but même pour lequel le peuple d'Israël a été créé. Ceux qui me connaissent déjà savent que je ne parle jamais de religion, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais demandé d'être seulement des hommes et des femmes qui pratiquent les mitzvot de la Torah. Ce n'est pas ça le but. Tout ceci, ce sont des moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour révéler son nom sur terre en tant que nation. À partir de ce moment-là, il faut savoir ce qu'une nation doit être pour devenir nation, pour ne pas que la notion de nation meure. Pendant tout l'exil, la nation d'Israël était considérée comme des ossements desséchés, c'est-à-dire en état de mort, à tel point que le prophète Ézéchiel nous dit que le retour sur la terre d'Israël ressemble à la résurrection des morts. Et toute une prophétie de Ézéchiel nous parle de ce retour, de la sortie de nos tombeaux, comme ça dit Ézéchiel, donc à Kadosh Baruch Hu, à travers lui, pour revenir à la terre de la vie. Mais notre retour ici ne veut pas dire que nous avons terminé notre travail. Bien au contraire, c'est là où il commence, réellement. Effectivement, lorsque nous étions en exil, nous sommes tombés dans la religion, parce que nous ne pouvons rien faire d'autre en tant que nation. Donc il fallait garder la braise. Et là, effectivement, la pratique de la Torah et des mitzvot ont permis aux hommes et aux femmes de préserver une braise, mais qui était en réalité pour le retour, pour la réapparition de la notion de peuple, celle qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé à Abraham Avinu, lorsqu'il lui a dit « Lech lecha ve'e'etcha le goy gadol ». Je veux que tu quittes la terre que tu croyais être la tienne pour que tu deviennes une nation. Sous-entendu, là-bas tu ne pourras jamais être une nation. Là-bas, en dehors de cette terre. Seulement sur cette terre, tu seras une nation. Vous savez très bien que la date à laquelle Dieu a parlé à Abraham, en réalité c'est une faute. Dieu n'a pas parlé à Abraham un jour. C'est Abraham qui a entendu. Car Akadosh Baruch Hu parle à chaque instant, à tous les Juifs, à toutes les générations, puisque chez lui, la notion de temps n'existe pas. Donc, ce n'est pas que Dieu parle de temps en temps, il se tait. Ça, ce sont des notions humaines. On ne peut pas prêter à l'éternel, à l'éternité, des notions humaines. Donc, ne pensez pas qu'Akadosh Baruch Hu se tait. Tantôt se tait, tantôt parle. Ça ne veut rien dire, tout ça. C'est-à-dire que le message, l'émission divine est continuelle, perpétuelle. Parfois, nous sommes au niveau de l'entendre, et bien souvent, non. Donc le Zohar HaKadosh nous dit que le Lech Lecha que Dieu a dit à Abraham, il ne lui a pas dit à un moment donné. C'est seulement que Abraham, à ce moment-là, est monté au niveau de l'écoute, de l'entendement, de l'ouïe, et il a entendu ce message. Quand par hasard, c'était en l'an 1948 de la création du monde. C'est-à-dire que depuis la création du monde, sont passés 1948 ans, peut-être que ça nous dit quelque chose, et c'est là où Abraham a entendu le Lech Lecha pour quitter et monter en terre d'Israël. Dans la tfila du soir de Arvit, nous disons « Kakadosh Baruch Hu Meshaneh Itim » מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים ברקיע כרצונו. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu règle des temps pour le monde d'en bas, dans lequel nous sommes. Encore une fois, chez lui, le temps n'existe pas. Mais pour nous, les humains, les créations, le temps existe. C'est l'une des notions de la création. C'est-à-dire que dans la création, il y a trois niveaux. Il y a le temps, l'espace et les êtres. Les temps changent. Parce que à chaque temps, il y a un aspect différent de l'infini qui apparaît. C'est toujours le même infini, lui ne change pas. On n'a pas le droit de prêter à Kadosh Baruch Hu des notions de changement, c'est de la Avoda Zara. Le verset le dit clairement, Ani Hashem lo shaniti. Chez moi, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de shana, notion de temps, shniya, la seconde. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas de seconde parce que je suis dans l'unité. Donc la seconde n'existe pas. En hébreu, shnia. D'ailleurs, comme en français, la seconde. Ça veut dire que la notion de temps n'existe que pour les hommes, que pour les êtres humains, pour les animaux, pour l'espace-temps. Mais dans l'infini béni soit-il, il n'y a pas de temps. Mais la création du monde, c'est une création de temps et d'espace. Eh bien, dans ce temps, dans cet espace, l'infini, qui est toujours le même, apparaît selon les temps, différemment. Autrement dit, imaginez-vous que le temps, ce sont des filtres au travers desquels l'infini traverse pour arriver dans notre monde, dans notre univers. Moralité. À chaque fois que le temps passe, nous percevons le même infini avec un angle de vision différent. C'est simple. Imaginez-vous donc un filtre. Ce filtre s'appelle Zman, le temps. Et selon le temps, la même lumière prend une autre couleur. Comme si je peignais les vitres de ma maison en bleu, eh bien le soleil qui est toujours de la même couleur pénètre dans ma pièce et j'ai l'impression que la pièce est devenue bleue, comme si le soleil lui-même était devenu bleu. Mais si je peignais mes carreaux en rouge, eh bien le soleil entrerait avec la couleur rouge. Moralité, il n'y a pas de changement dans le soleil lui-même, il n'y a de changement que dans l'écran que je présente. Et donc en réalité, nous recevons tous le divin selon le cli que nous présentons. Si ton cli est vert, Dieu sera pour toi vert. Si le cli est bleu, tu recevras le même divin en bleu. Et donc chacun de nous voit le divin selon le prisme de couleur qu'il est capable lui-même de présenter. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Moralité, le changement ne s'opère jamais dans la source, toujours dans le résultat. Il faut donc travailler sur les kelim, sur les récipients, sur notre capacité à recevoir. Quand je parle du temps, je parle par exemple du mois de Kislev. Il y a donc 12 mois dans l'année, donc 12 filtres, 12 permutations, 12 manières possibles de l'apparition de la même lumière divine dans notre monde. Et donc à chaque fois que nous arrivons à un mois et il y a Rosh Chodesh jusqu'à la fin du mois, eh bien il y a une qualité intrinsèque spéciale dans ce temps-là qui ne se retrouve pas ni avant ni après. C'est spécifique au mois. Moralité, je dois étudier le temps. Et si j'étudie le temps et je deviens spécialiste du temps, je peux savoir de quelle manière l'infini arrive dans notre monde en ce temps-là. Car le temps est toujours le même avec les mêmes qualités. C'est-à-dire que 2000 ans sont passés, le mois de Kislev il y a 2000 ans, c'est le même mois de Kislev aujourd'hui. La même énergie arrive. Et vous le dites, mais seulement malheureusement on ne fait jamais attention à ce qu'on dit. בימים ההם בזמן הזה. מה זה בימים ההם בזמן הזה? Qui s'est passé bayamim haem en ce temps-là, bazman azé, ça revient pareil maintenant. Et donc il faut que j'étudie le temps. Alors quels sont les livres qui enseignent le temps? Il y en a, Baruch Hashem. Ce sont des livres profonds qui nous expliquent les notions de temps, et cette notion de temps est écrite clairement, largement, dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 75. Et la Gemara nous dit là-bas qu'il faut savoir les secrets du temps. Car ceux qui connaissent les secrets du temps savent se mettre en position par rapport au temps. C'est-à-dire qu'au mois de Kislev que nous sommes en train de vivre, je dois moi-même devenir un Kislev. Vous comprenez? Mais si je vis comme un mois de Av, pendant le mois de Kislev, je suis hors jeu, hors temps. Je ne vais pas avec ce qui est là. Je ne peux pas m'adapter à l'énergie qui circule dans le monde, dans ce temps-là. Et donc il faut que je sache les secrets du temps, notamment le mois de Kislev dans lequel nous sommes. Alors la notion première, profonde du mois de Kislev est une notion de Gvoa. C'est-à-dire de force, de puissance et de rigueur. Or, les sages nous disent que la force, c'est pas seulement de casser des murs. Eze ou gibor a kovesh. Que veut dire le mot kovesh? Eh bien, comme vous mettez des mélaphéphonimes dans une boîte et vous fermez dans du sel avec de l'eau, ça devient un mélaphéphone kavouche. Qu'est-ce que ça veut dire que le mélaphéphone est kavouche? Il a été en réalité dompté et il a changé sa nature, il s'est imprégné du milieu dans lequel tu l'as enfermé. Que veut dire donc un gibor à kovéchet yitro? Le gibor, c'est celui qui arrive à mettre son yesser, qui veut dire pas son mauvais penchant. Le yesser n'a jamais été un mauvais penchant. Yesser vient du mot yestira, qui veut dire capacité à créer, c'est bria. Yestira l'histor, créativité. Hein, pas une création, mais créativité. Ça veut dire que ma force créative, eh bien, elle peut tantôt choisir de faire le bien, tantôt choisir de faire le mal. Mais elle, c'est une valeur absolue. Donc il n'y a pas de yesser qui soit mauvais, il y a un yesser. Si tu fais le mal, ça devient yesser hara, si tu fais le bien, ça devient yesser atop. Ce n'est pas deux anges qui circulent et qui flottent au-dessus de nous. Le mauvais penchant, le bon penchant. C'est l'homme qui penche vers le mal ou qui penche vers le bien. Sinon c'est trop facile. Vous jetez la responsabilité sur un petit ange qui vient vous ennuyer. Ce n'est pas comme ça le judaïsme. Pourquoi tu me punis? Tu n'as qu'à punir le Yetzer Hara, c'est lui qui est venu m'embrouiller la tête. Ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai un Koach Yetzirati, j'ai une force créative, et c'est moi qui l'a fait venir là où je veux. Bien souvent là où ça m'arrange. Ce moi donc de Kislev a une qualité en lui qui est nécessaire et suffisante pour combattre tout ce qui m'embête dans la vie, dans ce fameux dévoilement de l'infini dans le fini. C'est-à-dire qu'il y a plein de forces autour de nous qui nous empêchent en fait de réaliser notre être et de réaliser ce pourquoi le peuple d'Israël, et je reviens à cette notion, elle est primordiale, doit faire dans ce monde. Et toutes ces forces-là s'appellent d'une manière globale l'ennemi, au nom de l'ennemi, qui apparaît toujours le mois de Kislev. C'est pas le même que le mois de Hadar. Le mois de Kislev, l'ennemi s'appelle Yavan, la Grèce. Les Yévanim, les Grecs. Autrement dit, encore une fois, je dois étudier quelle est la spécificité de cet ennemi-là, et pas croire que c'est seulement des Grecs, parce que lorsque les Grecs ne sont pas là, alors moi je suis tranquille. Il y a une forme de Grèce qui est installé, qui revient, qui réapparaît chaque année au mois de Kislev à l'intérieur de chacun de nous. Et si je sais décoder la notion grecque, bien je peux sortir en guerre pour l'empêcher de m'empêcher de dévoiler l'infini dans le fini. L'une des qualités négatives de la Grèce, c'est en réalité ce que la Gemara nous dit. Yavan est comparé au noir, Choshech. Lorsque j'entends noir, j'ai l'impression que c'est seulement quelque chose que je ne vois pas. Mais en hébreu, le langage est tellement divin qu'il nous donne des secrets cachés. Dans le mot Choshech, il y a Shochreach, c'est la même chose, c'est-à-dire l'oubli. Moralité, le moi de Kislev, c'est pas seulement un noir, mais c'est un trou noir qui me fait oublier en réalité des notions très importantes à ma vie. Parce qu'il y a une force négative qui s'appelle Choshech ou bien Yavan, qui vient cacher, qui vient noircir, qui vient épaissir l'écran pour m'empêcher de voir réellement les choses à travers. Et donc je peux, Chas v'Shalom, si je ne sors pas en guerre dans le mois de Kislev, vous avez de la chance, c'est que quelques jours déjà qui viennent de passer, mais ne laissez pas le temps passer, eh bien, j'ai raté, Chas v'Shalom, une guerre. Si j'ai raté la force du mois de Kislev. Et chaque mois dans l'année vient avec son ennemi, qui lui est propre. Elle est négative. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est négative? Elle n'est pas là parce que Dieu ne peut pas...
C'est pas pour aider l'homme, mais conscience.
Non, non, c'est pour aider l'homme. C'est-à-dire, ça aide l'homme à traverser, à surmonter quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'y avait pas cet ennemi. Comme nos ennemis. Quand vous avez mal quelque part dans le corps, c'est pour se soigner. Imaginez-vous qu'on n'avait pas mal, on serait mort sans savoir ou guérir. Donc quand j'ai mal quelque part, quand je ressens quelque chose, mais c'est le moment de le soigner. C'est pour ça que dans la Torah, on ne dit pas « il est malade » dans le terme « maladie simple ». La Gemara dit « il sent le membre en question ». Par exemple, j'ai mal à la tête, on dit « chash verosho », « je sens ma tête ». Car quand je n'ai pas mal à la tête, je ne sais même pas que j'ai une tête. C'est-à-dire, vous sentez votre tête que lorsque vous avez mal. Moralité, le mal de tête vient vous dire, attention, tu es en train de faire quelque chose, et à chaque fois que tu fais cette chose-là, tu auras toujours mal à la tête. Donc ça ne sert à rien de prendre un cachet, il faut juste savoir quel est le déclencheur. Et si je sais trouver le déclencheur, eh bien je peux éviter ce mal à la tête au moment où il se réveillera la prochaine fois. Mais c'est la même chose au niveau de nos ennemis. Nos ennemis ne viennent pas contrer quelque chose, frapper, nous tuer, tout ça. Ça, c'est une fausse vision des choses. Il vient nous appuyer là où on doit guérir de quelque chose, d'un mal. Et si on ne sait pas, eh bien on frappe le bâton au lieu de s'occuper de celui qui le tient. Comme aujourd'hui avec les enfants d'Ishmaël, nos ennemis d'aujourd'hui. Alors, ça ne sert à rien de nous bloquer, de nous focaliser sur l'ennemi lui-même. Il faut savoir ce qui l'amène, cet ennemi. D'où il vient? Pourquoi il arrive à pénétrer? Apparemment, j'ai laissé en moi une ouverture. Et c'est dans cette ouverture-là qu'il peut rentrer. Donc il faut que je me guérisse. Mais j'ai du mal à le dire. D'où le mot maladie. J'ai du mal à réaliser les choses. Donc les choses restent en l'air. Et je mets des pansements sur des jambes de bois et je ne guéris jamais le mal à sa source parce que je ne sais pas aller à la source des choses. La Torah vient nous enseigner la source des choses à condition d'étudier avec des enseignants qui touchent les sources des choses et qui ne vous donnent pas juste les résultats finaux. Sinon ça ne sert à rien. Seule la Torah profonde touche les causes et les raisons des choses et pas seulement les résultats. Les résultats, c'est trop tard. Yediot acharonot, ça ne m'intéresse plus. C'est des informations qui sont les dernières. Dernières informations. Donc moi je veux les premières. Celles qui ont causé la chose. Et donc, la guerre que je dois mener pendant le mois de Kislev, dans lequel nous sommes, c'est en réalité une guerre contre tout ce qui m'obscurcit la vision claire de ce que je suis venu faire ici. Ça vous parle ? C'est-à-dire que si vous avez oublié ce que vous faites ici et vous avez l'impression que vous êtes juste des juifs religieux, vous vous levez le matin, vous faites toujours votre silo, vous êtes robotisé par la religion, c'est pas ce qu'Akadosh va ou quoi demander. Désolé de vous décevoir. Même si vous avez un livre de Tehillim toute la journée avec vous. Si vous n'êtes pas dans le sens de l'essence des choses, si vous ne savez pas ce que vous dites, si vous ne comprenez pas ce que l'éternité veut de nous, ça ne sert à rien. Si, ça fait c'est sympathique, on a l'impression qu'on a fait du bien. Mais ça ne suffit pas. La preuve, c'est qu'on est encore sans le Beth Amikdash et sans le Mashiach. Ça veut dire qu'il faut changer la manière de penser et commencer à pénétrer à l'intérieur des choses réellement et à devenir sérieux dans le travail de Dieu. Et ne pas croire qu'en faisant nos petits trucs tranquillement, on est, comme on dit en hébreu, mesoudari. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que je me reconnaisse, il faut que je sache qui je suis, il faut savoir quelles sont mes qualités. Et quels sont mes défauts et comment je peux vivre en tant qu'individu au sein de ma nation et pas comme un individu séparé de ma nation. Auquel cas je peux faire ma Torah même à New York. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et la Aret Asher Ar'eka. C'est demander de venir sur cette terre car c'est ici le véritable travail que je demande. Donc pas que tu sois religieux individuellement parlant mais que tu sois une nation qui fasse mon service et qui dévoile mon nom sur terre, car mon nom ne peut pas se dévoiler en tant qu'individu, chez l'individu, par l'individu, mais par la nation tout entière lorsqu'elle est sur sa terre. Moralité, la guerre des Grecs contre le peuple d'Israël n'était pas en dehors d'Israël. Elle était sur notre terre. Nous avions le Beth Amikdash. Ça veut dire que cette guerre est une guerre très fine, très sinueuse, très dangereuse. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on est déjà Mesoudarim, on a un Beth Amikdash, on est en Eretz Israël, et d'un coup, ce fameux grec vient te réveiller et te dire « Attention, tu n'as pas encore terminé le travail. Je vais, même avec le Beth Amikdash, même avec ton état, te noircir l'image et tu ne vas rien comprendre. » Donc l'exil était sur notre terre et tenez-vous bien, les Grecs n'ont jamais voulu nous renvoyer de cette terre. C'est encore plus vicieux. Restez sur cette terre. Mais on va vous faire oublier juste quelque chose. Ce que nous disons dans le Alanissim de Hanouka. Alanissim, Valakvura, Valachuot, Valenchamot, Chassit à la Votenu, Vayami, Maem, Bazman, Azé, Bime, Matitia, Oben, Yochanan, Kohen, Gadol, Chashmona, Yubanav. Kshamda, Malchut, Yavan, Haresha, lorsque cet empire grec est venu, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Voilà le mot-clé. Les Shakecham, Torah Tra. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah de Dieu. En m'écoutant dire Dieu, j'ai honte. Car lui aussi c'est un dieu grec, Zeus. Mais on est tellement déformé en français qu'on ne peut même plus parler. Donc on est obligé d'utiliser les termes que vous avez l'habitude d'entendre, mais sachez que quand vous dites Dieu, c'est comme si vous disiez Zeus, le roi grec. Kras de Shalom, quelqu'un, dont les parents étaient Chronos, c'est-à-dire le temps, et ainsi de suite. Moralité, toute étude de la Torah dans une langue étrangère au Lashon HaKodesh est une trahison. Mais malheureusement, nous devons guérir de 2000 ans d'exil, donc de 2000 ans de maladie. Alors je suis en train de vous parler encore en langage de Avodah Zara. Car le mot Lo'azi, c'est les racines de Lashon Avodah Zara. Bien. Donc sachez que nous faisons un tout petit peu de Avodah Zara gentiment, parce que nous devons guérir. peu importe, je reviens. La Grèce, donc, Yavan, vient nous faire oublier la Torah d'Hachem. C'est bizarre. Normalement, on aurait dû nous dire, ils sont venus nous faire oublier la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah d'Hachem? Je comprends par là qu'il y a au moins deux Torah. Il y a la Torah d'Hachem et il y a ma Torah. Ma Torah, c'est celle que je me fabrique tout seul. Chacun fait sa petite salade. Qui t'arrange là, la fois, qui t'arrange, tu les fais comme ça, les autres. Ça... Ah non, ça non, on fait pas, on n'a pas l'habitude. Ça oui. Et la Torah d'Hachem, c'est un autre niveau. C'est autre chose. C'est la Torah des secrets. C'est la Torah de l'infini, béni soit-il. Et c'est ça que les Grecs ont voulu nous faire oublier. C'est-à-dire, faites une petite Torah individuelle, une petite salade gentille, tu as l'impression que t'es bien, mais la Torah d'Hachem, on va te la faire oublier. Autrement dit, déconnecte-toi entre ce que l'infini veut vraiment et fabrique-toi des notions juives, religieuses, qui te conviennent. Vous comprenez ce que c'est la Grèce? C'est très dangereux. Et ça se réveille chaque mois de Kislev qui apparaît dans le monde. Ça veut dire qu'à chaque mois de Kislev, chacun de nous a une tendance naturelle, il a l'impression que c'est naturel, mais c'est très 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 subtil. D'abord, on nous endort, car dans le mois de Kislev, la notion qui frappe le plus, c'est le sommeil et l'envie de se recroqueviller. C'est ça le mot Kislev. Donc faites attention le mois de Kislev, de ne pas vous endormir. Et en plus de ça, tout est là pour vous aider. Il fait froid, il fait gris, il pleut. Donc on se dit, tiens, je vais rentrer tout dedans. Tu dors à 7 heures. T'as l'impression qu'il est déjà 1 heure du matin. Surtout le vendredi soir. T'as beau traîner à table, il est toujours 8 heures maximum. On n'arrive même pas à 8 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quitte les degrés supérieurs du vrai judaïsme, de ce que Kadosh Baruch Hu veut de toi, et suffis-toi d'un petit judaïsme à un niveau que tu t'es fabriqué, qui t'arrange un petit peu. Moralité, sois très très cérébral, très intellectuel, et oublie la Torah de la vie. Je vous rappelle juste au passage que c'était la faute du premier homme. Qu'était la faute du premier homme? Il a mangé l'arbre de la connaissance et il n'a pas voulu manger avant l'arbre de la vie. Ça veut dire que Adam Harishon était très intellectuel, il savait tout au niveau de la tête, du cerveau. Si c'est pas logique, je ne sais pas. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a perdu? La vie, tout simplement. Il a oublié de vivre. Il est devenu tellement cérébral qu'il a oublié de vivre. Comme d'ailleurs les gens qui sont très intelligents, leur plus grand mal, c'est leur propre intelligence. Parce qu'ils ne vivent plus. Ils vivent seulement parce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas. Ça s'appelle « Eitz Hadda'at ». « Eitz » n'étant pas un arbre, bien entendu. La Torah, ce n'est pas une bande dessinée. « Eitz » vient du mot « Eitza », c'est-à-dire un conseil. C'est juste le masculin de « Eitza ». Donc lorsque Adam Harishon a mangé, il n'a pas mangé de l'arbre, d'aucun arbre. Il a mangé d'un conseil intellectuel au lieu de manger du conseil de vie. Et aujourd'hui, nous devons réparer cela. C'est-à-dire que notre Torah ne doit pas rester seulement au niveau intellectuel, ni notre vie d'ailleurs. Ça doit être de l'intellectuel qui descend aussi dans le vécu. Et le vécu doit précéder ton côté intellectuel. C'était juste une parenthèse. Ça veut dire que le mois de Kislev, vous me comprenez ou c'est un petit peu la vapeur? Ça va? Ok. Le mois de Kislev, Ken, donc revient à chaque fois de sa même qualité, il revient, il se présente à nous, et nous avons pendant ce mois, ce que nous allons lire pendant la paracha aussi, parce que toutes les parachiotes que nous lisons dans le mois de Kislev sont reliées à toutes ces notions. Par exemple, le combat de Jacob avec l'ange. Quel combat de Yaakov avec l'ange, c'était qui cet ange? Sarosh el Esav, c'est-à-dire une force spirituelle qui vient en réalité le contrarier, l'empêcher de quoi? Pourquoi il y a eu ce fameux combat avec l'ange? Il y a fait, non, c'était la nuit de son alia. Vous saviez ça ou pas? Le combat était à l'aéroport. Mais je rigole pas en plus. C'était la nuit de la alia de Yaakov. C'est là-bas où l'ange est venu lui dire, ne monte surtout pas en Israël. C'est-à-dire, ne deviens pas un peuple, reste religieux. À Paris ou à Marseille. Pourquoi t'as besoin de devenir un peuple? C'est tous des fous là-bas. C'est plus facile de vivre individuellement parlant à l'extérieur d'Israël qu'avec tous ces fous ici qui sont venus se soigner de 2000 ans de maladie. Parce que tous les gens malades sont venus ici maintenant. Donc nous sommes tous des malades en voie de guérison. Mais c'est le plus grand hôpital du monde. C'est là-bas où on guérit. Les autres sont malades, mais ils ne savent même pas. Ils sont à l'agonie. C'est ça le problème. Et quand tu guéris de ta maladie, tu passes encore des turbulences. Tu as encore des résonances de ta maladie qui reviennent. Tu as du mal à la lâcher, cette maladie, parce que chacun de nous a envie d'être un petit peu malade dans sa maladie, parce qu'il gagne quelque chose dans sa maladie. Donc on a du mal à nous séparer de nos maux, M-A-U-X. C'est-à-dire qu'on veut bien rester chacun de nous là où on a mal. Et cherchez pourquoi, vous allez comprendre, parce que chacun de nous gagne quelque chose. L'un parce qu'on s'occupe pas assez de lui, donc il a besoin d'amour, donc il est malade. Quand il est malade, tout le monde vient lui dire « Qu'est-ce que tu as mon chéri, ça va bien ?» Et l'autre, la même chose, vous grandissez, nous grandissons, et c'est la même chose, un petit peu plus large. Et chacun selon son mal, là aussi, il faut décoder. Il peut savoir pourquoi il a ce mal-là, et pourquoi il a du mal à s'en séparer, parce que c'est son bon copain. Comme nos peurs, comme nos angoisses. Quelqu'un qui est peureux dans sa vie, qui a des traumatismes et des angoisses, eh bien tous les jours, il doit réveiller un tout petit peu cette angoisse, parce que c'est comme ça qu'il nourrit le dieu de la peur. Comment je peux nourrir le dieu de la peur? J'ai besoin de lui donner à manger, donc tous les jours, j'ai au moins peur 10 minutes. C'est comme ça que je lui apporte son offrande. King Kong. Eh bien, chacun avec son mal doit apporter une offrande à son mal, à Vodazar. Je reviens. Quel est le combat de Yaakov avec l'ange que nous lisons pendant le mois de Kislev, vous allez comprendre le sens. C'est le combat entre deux forces. Une force qui évolue, Yaakov, et une force qui n'évolue plus, Esav. Les sages nous disent pourquoi s'appelle-t-il Esav? Parce qu'il est Asouï, il est fait. Il est fabriqué. Il n'y a plus rien à faire de lui. Moralité, nous avons à l'intérieur de nous, ce n'est pas un combat avec quelque chose d'autre. D'ailleurs, le texte le dit. Vaillez avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire que Yaakov s'est battu avec la force et sa vie qui était en lui, qui l'empêchait d'évoluer, qui lui disait « reste tranquille, ça suffit, calme-toi ». Alors que Yaakov, lui, il est en perpétuelle évolution. Yaakov devient Israël. Yaakov se marie avec deux femmes. Ça ne suffit pas une. Ce ne sont pas deux femmes. Le pshat, c'est deux femmes. Yaakov se marie en fait avec deux mondes. Léa représente le monde de l'infini et Rachel représente le monde concret. Et Yaakov a besoin de faire le lien entre ces deux mondes, donc il est obligé de prendre ce qu'il y a dans le monde de Léa et après l'apporter dans le monde de Rachel. Et donc il est toujours double, il est toujours en perpétuelle évolution. Et c'est pour ça qu'il rêve de cette fameuse échelle que vous allez lire Shabbat, dont les anges montent et descendent. C'est bizarre. C'est quoi cette échelle dont les anges montent et descendent? Parce que tout simplement, il est obligé de faire le lien entre les deux mondes. Et qui est l'échelle? Lui-même. Chacun de nous, c'est l'échelle qui fait le lien entre les mondes. Et si je ne fais pas cette échelle, c'est un problème. Moralité, vous voyez que toute la vie de Yaakov, c'est une évolution. Alors que la vie de Esav, c'est une interruption et un degré statique qui ne bouge plus. D'ailleurs, il y avait deux grands philosophes qui avaient développé ces deux tendances. Un s'appelait Parménide et l'autre s'appelait Héraclite. Vous avez entendu? Parménide dit ce qui est et il n'y a pas d'évolution dans le monde. Ça, c'est fini. Donc, tendance est sage. Héraclite dit non. Aujourd'hui, tu es comme ça, mais demain, tu dois rajouter un autre étage. Donc, en réalité, qui te permet d'évoluer dans ta vie? Le fait de rajouter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est bizarre. Comment s'appelle l'enfant spécial de Yaakov qui lui permet sans arrêt de rajouter une étape à sa vie? Yosef, qui veut dire rajouter. Donc, elle est soldat Yaakov, Yosef. C'est bizarre, on aurait dû dire Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, il y avait 12 enfants, non? Voici les engendrements de Yaakov, c'est-à-dire, si tu veux comprendre le secret de Yaakov, ce n'est que par un seul fils qui est en réalité un code. Rajoute. C'est bizarre. Les lumières de Hanouka, comment est-ce qu'on les allume? Mosif Veholech. Mosif Yosef. La même chose. C'est-à-dire au début j'allume une, après j'allume une, plus une, après j'allume une, plus une, plus une. C'est-à-dire que je suis en perpétuelle évolution. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini. Le chiffre 8. Vous comprenez qu'en réalité, dans cette fête de Hanouka, il y a la racine, Chinour, une éducation. Donc nous devons nous éduquer à Hanouka, et bien avant Hanouka, tout le mois de Kislev vient m'introduire à cette fête de Hanouka, de l'éducation de soi, de savoir ce que je suis venu faire dans ce monde, et attention de ne pas t'endormir. Parce que si tu t'endors, tu tombes chez Parménide, chez Esav, et tu te bloques. Alors que si tu évolues, tu vas vers Yosef. Et Yosef, là où tu le mets, il s'en sort. Tu peux le jeter dans un trou noir, comme les frères l'ont fait d'ailleurs, il s'en sort. Tu peux le jeter dans une prison pourrie en Égypte. Non seulement il s'en sort, il devient chef de la prison, chef des capas, et après il devient chef de toute l'Égypte. Autrement dit, c'est une force incroyable, qui ne s'arrête jamais, et en plus de ça, il est porteur d'avenir, puisque le mot Yosef, il est à quel temps? Au futur. Au présent, c'est Mosif. Donc il est toujours Yosef, li Hashem ben Acher, comme a dit sa maman au moment de l'accouchement. Vous comprenez que si vous comprenez la Torah comme une bande dessinée, alors tous les acteurs, ce sont des êtres qui ont vécu un jour, qui sont morts, et toi tu viens raconter à ton mari ou à ta femme une belle histoire qu'il y a lu dans ta paracha. Mais c'est pas ça. Yosef est en moi. Yaakov est en moi. Esav est en moi. Tous les acteurs sont en moi. C'est à moi de faire le travail, de décoder le pharaon qui est en moi, qui veut enfermer le peuple d'Israël qui est en moi, de sortir de l'Égypte qui est en moi. Si je ne comprends pas la Torah de cette manière-là, c'est encore une histoire. Il y a Blanche-Neige et les sept nains, il y a la Torah, Neviim et Ketuvim, Chas v'Shalom. Le Zohar nous dit que ceux qui ne comprennent pas la Torah, qui ne l'étudient pas de cette manière-là, rentrent à la synagogue vide et sortent vide, comme ça dit dans le Zohar. Autrement dit, nous devons faire un véritable travail sur nous-mêmes, il faut arrêter de croire que la Torah vient nous raconter des histoires du passé. Et donc tout ce système-là évolue à l'intérieur de mon être, et je dois sans arrêt décoder et déceler les lumières, les degrés qui sont cachés en moi. Et relier le ciel et la terre, c'est-à-dire jouer le rôle de Yaakov qui devient Israël seulement lorsqu'il arrive à combattre cette force et sa vie qui est en lui, cette force de la graisse qui est en soi, cette force qui veut éteindre la lumière et tu arrives. Jusqu'à quand a duré ce combat? Ad alot ha-shachar, jusqu'au lever du jour. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que c'est un combat nocturne. C'est un combat de la nuit. Ce sont des forces des ténèbres, ce sont des forces du noir. Pas des forces du noir comme dans les dessins animés japonais. Mais des forces qui viennent te noircir la vie. Je traduis très simplement. Tu tombes en dépression, déprime. C'est ça, ces forces. Ne croyez pas que c'est des forces maléfiques qui viennent de l'extérieur, non. Si vous avez une tendance à la dépression, faites attention. Il faut que votre Yaakov combatte vite. Parce que juste en combattant cette force-là, il va devenir Israël. Et c'est cette force négative qui lui dit « Bravo, Chazak ou Baruch ». À la fin du combat, lorsque le jour se lève, il dit « Lâche-moi, c'est fini, je suis obligé de partir, ça y est, tu m'as gagné ». Il dit « Non, je te lâche pas. Je veux maintenant que tu me bénisses, toi ». Autrement dit, la maladie elle-même, le mal lui-même devient quoi ? Mon bénisseur. C'est le mal qui me guérit. C'est dans la maladie que je trouve la guérison. D'ailleurs en hébreu, machala, achlama, c'est les mêmes lettres. Tant que ce n'est pas la maladie elle-même qui s'est transformée en guérison, je n'ai rien compris. Je dois utiliser la force de la maladie pour qu'elle devienne une guérison. C'est là-bas où elle se cache, ma guérison, nulle part ailleurs. Dans le mal lui-même. Dès lors, vous comprenez qu'en réalité, toute la Torah vient nous enseigner ce secret-là, ce schéma-là. Donc Léa et Rachel, qui sont en réalité ces deux mondes, le monde de Léa, c'est le monde que la Torah ne révèle que par ses yeux. Elle nous dit, Ve'ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient tendres. Sympathique. Alors que Rachel, Ve'Rachel Aïta Yefat To'ar Ve'Yefat Mar'e, la Torah prend le temps de nous dire tellement elle était belle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle est visible, alors que Léa, elle est invisible. Et donc, moralité, quand tu te maries avec ces deux, ce sont deux sœurs. En réalité, dans la Kabbalah, on nous dit que ce sont les deux lettres He du nom d'Hachem. Donc ce sont des jumelles, à tel point que même Yaakov s'y trompe. Il se lève le matin, il voit Léa à la place de Rachel. C'est les mêmes. Mais une est dans le monde des idéaux, et l'autre est dans le monde de la concrétisation de ces idéaux. C'est ce que vous appelez la Jérusalem d'en haut, Léa, et la Jérusalem d'en bas, Rachel. Yerushalayim shel ma'ala, Yerushalayim shel mata. Toutes ces notions, il faut bien les comprendre. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec cette Jérusalem d'en haut? Vous croyez qu'il y a une ville dans l'espace? Moi j'ai demandé aux astronautes, ils n'ont rien vu. Hein. La Jérusalem d'en haut, c'est une Jérusalem de l'idéal, celle que Akadosh Baruch Hu veut que la Jérusalem d'en bas soit. Et quand moi, dans la Jérusalem d'en bas, je construis des maisons et je fais en sorte d'être fidèle à la Jérusalem d'en haut, j'ai réussi mon travail. Mais là, chez Jérusalem, elle est en vous. C'est dedans. C'est en moi que j'ai Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Mes idéaux et la réalisation de mes idéaux, est-ce que je suis fidèle à moi-même et à mes valeurs absolues, intérieures, profondes, célestes? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est ce qu'on fait à Hanouka. Hanouka, on allume des veilleuses, des lumières. D'où est-ce qu'elles viennent, ces lumières? De la Makolet? Si c'est le cas, moi je ne comprends pas ce qu'on dit juste après l'allumage. Anerot alalu, Kodesh Hem. Oh, Kodesh, tu l'as acheté la Makolet du Kodesh. Incroyable. Elle a nous reshut l'Ishtamesh Bahem. Elle a l'Irotam Bilvad. Ce n'est pas du tout des lumières qui viennent de ce monde. Les lumières de Hanouka viennent justement de la Jérusalem d'en haut. Et tu les fais descendre dans ce monde. C'est pour ça que la menorah de Hanouka doit être allumée à un niveau bas. Et pas haut. Tu dois faire le mouvement du haut vers le bas pour les allumer. Parce que tu dois en réalité montrer que ce sont des lumières qui viennent de l'au-delà dans notre monde. Elles viennent de l'ordre du 8. Qui est l'infini, pour éclairer le monde du 7 dans lequel nous sommes. Et c'est en réalité la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces lumières? Bien tout simplement pour éclairer, parce que justement je suis dans le noir. Parce que justement je suis dans une force qui essaye de m'embrouiller la tête pendant ce mois de Kislev et qui me dit « Tout est noir !» Qu'est-ce que ça veut dire « Tout est noir » Il n'y a pas d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Okay. Et en réalité, c'est faux. C'est complètement faux. Am Israël, ça n'existe pas chez lui. Il doit apporter ses lumières de l'au-delà, parce que ici, effectivement, si tu utilises des éléments d'ici pour guérir le ici, ça marche pas. Il faut que tu ailles puiser dans ton plus profond de ton être, à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans les valeurs d'Israël en tant que nation, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a pensé, pour prendre cette nation et la révéler dans notre monde. Et ça, c'est l'allumage de ces lumières. Donc combien de lumières je dois apporter dans mon monde à moi? 8. C'est pour ça que j'allume 8. Parce que mon monde, c'est un chiffre 7. Comment est-ce que j'ai fait pour faire descendre un 8 dans le monde du 7? C'est un secret. Pas par hasard que le 8 couché est synonyme de l'infini en mathématiques. C'est-à-dire que c'est l'infini qui descend dans le fini. Et même ça, c'est pas suffisant, parce que la menorah ne touche pas encore la terre. Moi, je veux que les lumières du plus haut descendent au plus bas. Il y a un jour dans l'année où on fait ça. Plus encore que Hanouka. Où le feu de ce degré supérieur descend jusqu'au sol. L'Akba Omer. On allume la lumière de la Torah des secrets. Elle touche le parterre. Elle pénètre la matière. Ça, c'est la fin des temps. C'est pour ça que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Zohar, Alav Shalom, c'est elle qui est synonyme de la fin des temps. Ce que je vous dis maintenant, c'est du Zohar. Mais je l'ai juste mis, fabriqué dans ma petite cuisine, comme un pâtissier qui fait un gâteau, pour que ce soit un petit peu plus agréable au palais. Mais en réalité, ça vient de cette étude-là. C'est très important à notre époque de comprendre ces notions-là, avec des gens qui sont capables de vous prendre ces notions de la Jérusalem d'en haut et de les fabriquer au four à 220 degrés pendant un quart d'heure pour que ce soit bon à manger. Vous avez compris qu'en réalité, il s'agit ici de secrets énormes. La Gemara nous dit que les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, et qu'ils ont souillé toutes les huiles. Et alors, s'ils ont souillé toutes les huiles, il n'y a plus rien. Eh bien, les Hashmonaïm, les Hasmonéens, car en français ça donne... on a l'impression que c'est des... Mais dans le mot Hashmonaïm, qu'est-ce que vous entendez? Shmoné. Ha, Het, c'est aussi Shmoné en valeur numérique. Shemen, c'est-à-dire même Shemen, c'est Shemone, c'est la même chose. Neshama, c'est la même racine. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du 8, l'âme, les Hashmonaïm, le Chet, tout ça, c'est eux qui ont combattu le grec qui lui est basé sur le chiffre 7 et qui te dit reste ici. Parce que je veux te faire oublier la Torah de Dieu. Reste dans ce monde-là. Reste dans ta logique. Dans ton monde cartésien. Eh bien, lorsque les Hashmonaïm ont combattu et ont battu les Grecs, ils sont rentrés dans le même Beth Mikdash que les Grecs avaient souillé, et ils ont trouvé une fiole. Je ne comprends rien, ils ont souillé ou ils n'ont pas souillé? Il y a marqué Vetimou Kol Hashmanim. Alors comment ça se fait qu'ils ont trouvé une fiole? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ne dis pas Kol Hashmanim. Ils ont effectivement souillé toutes les huiles qu'ils étaient capables de souiller. C'est-à-dire qu'ils étaient à leur niveau. Mais il y a un degré qu'aucun grec et qu'aucune nation au monde ne pourra jamais atteindre. C'est pour ça qu'il y a marqué « par Echad » chez le Shemen. Il y a une fiole unique, Echad, qui est de l'ordre de l'unicité d'Hachem, c'est-à-dire au plus profond de notre Neshama, ça jamais aucun ennemi ne pourra atteindre. C'est le degré de la vie. Et c'est de là-bas que les Hashmonaïm ont pris cette lumière pour rallumer tout le Beth Amikdash et tout le reste. Moraï Vorabotai, cette lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous, dans votre Kodesh HaKodashim, dans votre Saint des Saints. Et aucune force, aucune dépression, aucune déprime, même si elle a tout souillé dedans, cette fiole-là ne pourra jamais l'atteindre. Mais, pour atteindre cette fiole-là, il faut faire un travail de birour, de tri, de combat, pendant le mois de Kislev, ne pas nous endormir. Et au moment où tu as gagné ce grec en question, eh bien tu peux rentrer dans ton Saint des Saints, tu vas retrouver, elle est toujours scellée, du sceau de Chotamo shel Kohen Gadol, du grand prêtre. Qui c'est le grand prêtre? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous une fiole qui est scellée par le sceau d'Akadosh Baruch Hu, que personne ne peut souiller. Et si tu es capable, tu retouches cette lumière-là et tu peux rallumer ta vie tout entière. Toda Rabba. Si vous avez des questions, laissez-la. Ni à Mars, il a été le Torah. 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 Il a été Torah. דרך אגב, יש יותר נשים מאשר גברים בכל השיעורים, בעולם. למה? כי הנשים מתעוררות לדברים הפנימיים האלה, לכן זה חשוב מאוד. כן. כן, תלעתי להביא גבול. כן. Je parle de Torah-Techa ולא Torah-Tenu. C'est-à-dire Torah-Techa, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la Torah du Sol, la Torah des secrets. C'est ça que les Grecs voulaient nous empêcher de faire. En fait, les Grecs nous ont empêchés d'étudier le Zohar.